بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alors on va essayer inchallah ce soir de compléter le tafsir de Sourate Al-Fajr qu'on avait commencé il y a pas mal de temps. Après il y a eu quelques coupures, quelques interruptions. Inchallah, demandons à Allah de nous tawfiq de reprendre de manière inchallah plus régulière donc nos programmes de tafsir. La fois d'avant, c'est-à-dire le dernier cours de tafsir qu'on avait fait, on avait expliqué lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Sourate Al-Fajr à propos des adab. فَيَوْمَ إِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Que personne ne punit comme Allah Ta'ala punit. On avait expliqué à travers quelques wasfs, quelques descriptions, comment sera l'enfer, quels sont les châtiments de l'enfer. Et on a vu également, voilà, tout ce qui concerne l'enfer. On avait dit que le sourate se termine par des versets beaucoup plus positifs qui parlent du paradis et principalement le moment où le musulman quitte le dunya. Lorsque le musulman quitte le dunya, et que ce musulman reçoit la bonne nouvelle, on va essayer de s'approcher un petit peu, au moins la voix reste. Lorsque ce musulman reçoit la bonne nouvelle de la part des anges qui prennent son âme, la bonne nouvelle qu'il fera partie des gens du paradis. Alors la traduction du verset qu'on a lu, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ô toi âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Fadkhuli fi ibadi, entre donc parmi mes serviteurs, wadkhuli jannati, et entre dans mon paradis. Alors cette annonce, ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Les commentaires, elle dit que cette annonce est faite aux musulmans lorsque le musulman inda nazri, lorsque le musulman vit ses derniers instants de ce dunya, lorsque l'ange de la mort est venu accompagné avant cela des autres anges qui préparent la venue de l'ange de la mort de Malik al-Maut. Lorsque Malik al-Maut va reprendre l'âme du mu'min, c'est-à-dire celui qui a le réel iman de son cœur, alors dans certains riwayats, il est dit que l'ange apparaît sous une forme merveilleuse. C'est un spectacle exceptionnel et avec beaucoup de rahama, de nour, de lumière. Et l'ange, dans certaines versions, il est dit que l'ange dit au musulman qui va quitter ce dunya, Allahu yuqri'uka salam, je te transmets le salam, la paix de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque donc l'âme va sortir du corps du musulman, de ce mu'min, cette âme, elle est apaisée. Pourquoi elle est apaisée? Parce qu'elle vient de recevoir la bonne nouvelle de la part de l'ange de la mort, qu'elle fera, inshallah, partie des habitants du paradis. Et le simple fait que ce mourant voit l'ange de la mort apparaître sous cet aspect magnifique avec toutes ses lumières et accompagné d'un cortège d'anges qui eux-mêmes dégagent de la bénédiction et de la lumière, c'est déjà une bonne nouvelle pour le musulman. Parce qu'il n'y a pas 54 figures. Il y a soit Malik al-Maut qui se présente, comme on vient de le décrire, soit il se présente sous une forme horrible pour le kafir ou pour le fasir, qu'Allah nous protège. Donc dès les premiers instants que le mourant voit l'ange de la mort venir, et avant que, ça c'est pas le but du ayat, avant que Malik al-Maut arrive, il y a un cortège, si on pouvait appeler ça comme ça, il y a d'autres anges qui arrivent avant, qui s'installent auprès de la personne, et ensuite Malik al-Maut arrive. Donc le simple fait qu'il voit l'ange de la mort apparaître sous cet aspect, donc il sait déjà que, alhamdulillah, sa situation est plus que positive. Donc lorsqu'il reçoit cette bonne nouvelle, il dit que l'âme sort avec plus de facilité. Mais même, les mufassirs disent, même si l'âme sort avec plus de facilité, ça ne veut pas dire pour autant que le musulman, lorsque le ruh, l'âme quitte son corps, l'âme sort avec, sans la moindre douleur, jamais de la vie. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, lorsqu'il vivait ses derniers instants, il faisait qassam par Allah, inna lil mauti sakarat. Il faisait le qassam. Il dit que pour cette mort, il y a une agonie difficile. C'est-à-dire les douleurs que le musulman va ressentir, ou le mourant d'une manière générale, ressent lorsque l'âme quitte le corps,
C'est un niveau de douleur qu'on ne peut pas imaginer. C'est pire que si on vous broyait les os, c'est pire que si on vous jetait dans un feu, c'est pire que toutes les douleurs qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'il y a un atmaslah qui est sans rapport avec ce direct, avec le tafsir. Dans cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans de souhaiter la mort. Hadith, dans les Riyad al-Salihin, entend qu'il y a, le prophète interdit aux musulmans de souhaiter la mort, lida'in nazala bihi. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive un malheur, un problème, Allah nous protège une maladie ou quelque chose, hein, le docteur vous annonce que vous avez tel, hein, on a fait vos analyses, hein, il y a une tumeur ou autre chose, qu'Allah nous protège. Right? Et lorsque le musulman il entend ça, il dit, il demande, oh Allah, reprends-moi, je veux mourir, je ne veux pas vivre avec cette maladie, je veux mourir. Voilà quelqu'un, il paie à son épouse, ou il paie à un enfant, il est tellement triste qu'il dit, oh Allah, reprends-moi. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que les mufassirins expliquent, les muhaddithins, pardon, ils expliquent, ils disent que lorsqu'Allah Ta'ala envoie une épreuve, que ce soit la mort d'un proche, soit une maladie, n'importe quelle nature de l'épreuve, Allah Ta'ala l'envoie pour un but précis. Et Allah, il choisit sur qui envoyer ces épreuves. Une personne qui ne peut, on pourrait dire ça comme ça, qui ne peut encaisser un coup, il ne le recevra pas. Allah éprouve les gens en fonction de leur niveau. Pas en fonction de leurs études, de leurs diplômes, de leur origine familiale ou leur richesse, non. Allah éprouve en fonction de leur niveau. Niveau de quoi? Niveau de iman. Les gens sont éprouvés en fonction de leur foi. Et le début du hadith, les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Salam. Ensuite, ceux qui se rapprochent d'eux. Et les gens sont éprouvés en fonction de leur foi, leur degré de religion, de leur cœur. Celui qui a une foi solide sera plus éprouvé. Quelqu'un qui a un degré de iman faible, Allah Azza wa Jalla ne l'éprouvera pas par une difficulté qu'il ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le niveau de difficulté est tellement intense que la personne peut faire kufr ou autre chose. Donc quand il nous arrive un problème, il ne faut pas se dire que je vais craquer ou alors je me suicide ou alors j'en peux plus, c'est trop. Non, si Allah nous éprouve par quelque chose, c'est parce qu'Allah Ta'ala il sait que déjà cette personne il a le iman suffisant. Il a le potentiel, il a la capacité de supporter cette épreuve. Moi j'ai connu dans mes études une personne, subhanallah, d'un certain âge, qui avait déjà atteint la quarantaine, donc l'épouse aussi était âgée d'une quarantaine d'années, et la femme a eu un enfant. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant à partir de cet âge-là, et alhamdulillah, elle a eu une grossesse. Mais au bout de jusqu'à 6 mois ou quelque chose comme ça, elle a fait une PR. Déjà, c'est difficile. À un certain âge, on découvre que l'épouse est enceinte, on est tellement content. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'enfants. Donc, c'est une joie. Hein, c'est comme un renouveau de la vie de famille, d'accord? La PR dure. Un an après, c'est le même mois, Shawwal, la femme, elle est, alhamdulillah, de nouveau enceinte. Et l'enfant est né. L'enfant est né. 2 jours, 3 jours, infection de les poumons, l'enfant meurt. Moi, je regarde cette personne perdre 2 enfants en 2 ans, à cet âge-là, à 40 ans ou un petit peu plus, et la femme, pareil, on sait qu'après, c'est fini, on ne peut plus avoir d'enfants à 45 ans. Je me dis que, faut qu'Allah Ta'ala éprouve cette personne, c'est un étudiant. Faut qu'Allah éprouve cette personne, c'est que vraiment, Bougal est fort. C'est que vraiment, cette personne a une foi énorme. Cette personne est costaud, son iman est fort. Parce que je me suis dit, moi, ça me serait arrivé, je n'aurais pas pu tenir. Je n'aurais pas pu supporter une telle épreuve. Père, 2 enfants, 2 ans. C'est pour ça qu'Allah ne m'a pas éprouvé de la sorte. Lui, il a été éprouvé de la sorte parce qu'Allah, il a vu qu'est-ce qu'il y a, Allah a'lam, qu'est-ce qu'il y a de son cœur, selon les hadiths. Allah éprouve en fonction du niveau de iman, du potentiel de foi de la personne. Parce que plus j'ai un iman solide, plus j'ai un yaqin solide. D'accord? Plus j'ai un yaqin, une conviction, c'est-à-dire une confiance en Allah solide, plus j'ai confiance sur le destin. Ce qui arrive, ça vient de la part d'Allah. Et quand quelqu'un a su parfaire sa foi sur le taqdir, ça, c'est les ulama disent, c'est le plus haut degré de iman, ça. Si quelqu'un il a intégré la notion de al-qadha ou al-qadr, les décrets et l'application des décrets d'Allah, et s'il a iman complet dessus, ça, c'est le plus haut degré de iman. D'accord? Donc, comme on disait que, enfin, on est parti un peu loin, je ne sais pas comment on était parti là-bas, donc, on disait que chaque personne est éprouvée en fonction de son. Voilà. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si vous arrive quelque chose, il ne faut pas souhaiter la mort. Parce que c'est par cette épreuve qu'Allah Ta'ala, il veut quelque chose pour vous. Allah Ta'ala, il va peut-être vous pardonner les péchés de votre vie tout entière, pas la mort d'un proche, la mort de votre femme, la mort de votre enfant, ou alors une maladie, ou la perte de votre emploi, ou je ne sais pas, n'importe quel ibtila, n'importe quel malheur. C'est peut-être par ça que c'est le kafara, l'expiation d'années de péché, voire peut-être même d'une vie de péché. Et que lorsque vous mourrez, vous vous présentez auprès d'Allah Azza wa Jal, et il y a des années, 10, 15 ans de péché qui ont déjà été lavés. Parce que vous avez été éprouvé. Dit pour ça, une des raisons pour lesquelles il est interdit de souhaiter la mort lorsqu'on a un problème. Et deuxième chose, la personne, supposons que c'est un cas où la personne est souffrante. Malade, elle est souffrante. Elle croit que la mort va mettre fin à ses souffrances. Déjà, le sakarat, l'agonie, c'est un niveau de souffrance qu'aucun être vivant ne connaît. L'agonie, c'est un niveau de souffrance qu'aucun être vivant ne connaît. Les Anbiya, ils l'ont décrit. Certains l'ont décrit, j'ai plus le hadith en tête, il dit comme si vous mettez un fil de fer dans du coton, vous arrachez, ou alors comme un oiseau, vous mettez dans une marmite, vous le faites cuire, etc. etc. Différent, ce n'est pas des péchés en Dieu. C'est qui ont décrit là? C'est des Anbiya. Et les gens les plus aimés par Allah. Vous pensez que Malik al-Maut, il va prendre l'âme d'un prophète de manière brutale? Non! Avec le plus de précautions possibles. Et l'Anbiya décrivent comment, et le prophète dit, « Wallah, inna lil mauti sakarat » Pour la mort, hein, il y a une agonie terrible pour la mort. Le prophète décrit comment ces moments-là sont difficiles. Fahib, une fois le prophète il voit un musulman en train d'agoniser, et il dit à l'ange de la mort, « Irfiq bi sahibi fa innahu mu'min » Agis, yani, prends son âme avec douceur, c'est un mu'min ça. Ça c'est un mu'min en plus, c'est un sahaba. Hein, d'accord, c'est un sahaba. Et l'ange de la mort répond face à sa lame que à chaque fois que je prends l'âme d'un musulman, je prends avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de douceur. Mais malgré cela, lorsque l'âme quitte le corps de l'être humain, c'est une étape difficile. Les ulama, en train de quitter, on finira jamais, ces ulama, ils expliquent que même si nous ne voyons pas la souffrance sur le visage du mourant, il ne faut pas croire que certains disent qu'il s'en est allé, l'expression française, il s'en est allé comme je ne sais pas quoi. Il s'en est allé en douceur, en souriant et tout. Le sourire, c'est autre chose. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un meurt de le coma, par exemple, qu'il n'a pas souffert. C'est vrai que de le coma, quelqu'un de le coma pouvait le frapper, le pincer, le brûler, ne sentira rien. Mais le simple fait que le ruh quitte le corps, même si nous ne voyons pas l'expression du visage, même si nous n'entendons pas de son, malgré ça, il y a une douleur lorsque l'âme quitte le corps de la personne. Et en parlant de ce moment fatidique, dans Imam al-Qurtubi, rahimahullah, la tazkia, il explique que dans ces derniers moments, Shaitan, hein, il vient avec un verre d'eau. Comme Anwar m'a donné un verre d'eau, mais ça c'est un autre contexte. Shaitan, il vient avec un verre d'eau pour le mourant. Et il dit quoi? Mut yahoudiyan fainnahu khairul adiyan. Ou alors il dit mut nasraniyan fainnahu khairul adiyan. Alors, moi je ne rends pas le verre d'eau, mais Inch'Allah qu'Allah nous donne la possibilité, hein, dans ces moments-là, de repousser ces dernières tentatives de Shaitan. Parce que Shaitan, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaitan, il vous amène un verre d'eau, il dit que meurt avec telle religion, c'est mieux que l'islam. Ou alors meurt avec telle religion, ça c'est mieux que l'islam. C'est-à-dire, Shaitan, il est là depuis qu'on est baligh jusqu'à le dernier moment. Parce que quand l'âme quitte le corps de l'homme, la mission de Shaitan est terminée pour Ibrahim, pour Ishaq, pour Abdullah. Tant qu'Abdullah a un souffle de vie, Shaitan, il est là pour essayer de le détourner du droit chemin. Et jusqu'à la dernière seconde, il fera tout ce qu'il peut pour essayer de ramener, hein, une personne dans le mauvais chemin. Yukhrijuhu minan nuri ilaw. Et leur volumane, de la lumière vers l'obscurité. Donc ça c'était quelques petits hadiths concernant le moment où l'âme quitte le corps du mourant. Alors maintenant imaginez, quand le prophète m'explique quelle est la douleur de la mort, imaginez comment doit être les souffrances d'un kafir. Quelqu'un qui n'a pas le iman, quelle souffrance doit-il voir, doit-il vivre lorsque l'ange de la mort, il vient, il frappe cette personne. Il y a des versets. J'ai pas en tête le verset, il dit comment les anges ils tapent, ils frappent la personne pour que l'âme quitte le corps de cette personne, qu'Allah nous protège. Et là aussi on voit, subhanallah, quelle est la ni'mat du iman. Ça c'est un parmi un million, mais c'est la dernière étape lorsque l'âme quitte le corps. Mais tout au long de la vie, même au moment de la mort, le malik al-maut, il n'agit pas avec le mu'min comme il agit avec le kafir. Et donc ce musulman, il est heureux déjà. Il est heureux parce que l'ange vient de l'annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Et pourquoi il est heureux? Parce qu'on l'annonce quoi? On l'annonce pas une fortune ou l'honneur ou autre chose. On l'annonce le Jannat. Et en commentaire, il est dit que cet homme qui va mourir vient d'avoir la nouvelle de ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'Allah Ta'ala a créé, c'est-à-dire le paradis. Et il dit que, et ce paradis-là, c'est quoi? C'est pas لِأَنَّهَا بُشِّرَتْ بِمَا هُوَ أَنْعَمُ مِمَّا فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا. Il a eu la bonne nouvelle de ce qui est mieux que tout ce qu'il connaît dans ce monde. Parce qu'il dit dans le paradis, la مَوْدُعِ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Il dit que l'espace qu'il y a pour une brindille dans le paradis, une brindille, un petit morceau de bois, c'est mieux que ce dunya et tout ce qu'il contient. Une brindille, un petit morceau de bois dans le paradis, c'est mieux que ce monde et tout ce qu'il contient. Et lorsqu'on dit ce monde, en commentaire, dit le khayru min ad-dunya, c'est pas quand on parle du dunya, ce que toi tu as. Non, c'est le dunya, la terre tout entière. Une brindille, c'est mieux que le monde entier, tout le globe terrestre et toutes les fortunes, tout ce qu'il y a comme richesse dans tout cela. Voilà. Et maintenant, il explique un peu comment la personne, bon, mais c'est pas exactement le sujet, il dit qu'une personne qui accède au paradis, hein, il dit فَكَيْفَ بِمَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ مَسِيرَةَ أَلْفَيْ عَامٍ. Il a dit, l'habitant du paradis, lorsqu'il accède à ses demeures de le paradis, il va regarder qu'est-ce qu'Allah lui a donné. Il va contempler les terres qui appartiennent, et juste pour contempler tout ce qu'il a, d'un regard, ça prend 2000 ans. Il faut 2000 années pour le jour de le tachalem, où il lève les yeux une vie toute. Offrez-vous de cuisine ou de toilette, une salle de bain, une petite cuisine. Pas besoin de grand chose, d'accord? Même où Dieu l'a fermé, où il y a les toilettes, t'as pas courant, casse pas la tête, d'accord? Pour le Jannat, hein, il faut 2000 ans pour regarder tout mon mulk, mon royaume. On peut parler de royaume, ce qu'Allah a donné à cette personne, avec tout ce qu'il y a comme bienfait, comme château, comme fleuve, comme Allah Amstan, Alhamdulillah, tout ce qu'il y a, hein, avec dans le Jannat. Taïb, ta'ala. Évidemment, ce genre de hadith, hein, ça on le, peut-être on ne le dit pas devant beaucoup de gens. Parce qu'une personne qui n'a pas le iman forgé ou formé, il dit, mais qu'est-ce qu'on a raconté? Il a 2000 ans pour regarder mon terrain? N'importe quoi, il dit, exagère. Exagère, il dit n'importe quoi. Oui, mais justement, c'est la frontière entre le réel et l'irréel. Non, la frontière entre le dunya et le ilm al-ghaib. Ça, c'est un signe fort de la frontière qu'il y a entre mon dunya à moi et le akhirat. On ne peut pas comparer ça. Quand on parle du akhirat, quand on parle des bienfaits du paradis, il ne faut pas essayer de comprendre avec les mots du dunya ou avec mon esprit du dunya. On ne pourra pas comprendre. C'est pour ça que ça peut être un fitna pour des gens. Il dit quoi, 2000 ans pour regarder mon royaume paradis? Il va dire que c'est des bobards, c'est n'importe quoi. D'accord? Donc ça, bon, c'est que réduit, restreint, on peut dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Hein, il y avait un hadith en tant que dernièrement, et ça c'est un hadith, bon, qu'on connaît peut-être, mais c'est important de souligner ça pour voir la différence qu'il y a entre ce monde et le-delà. Il dit que jour de Qiyamah, quelqu'un qui a été tué, hein, quelqu'un qui a été assassiné, la première chose qui sera jugée sera Ad-Bima, le sang versé injustement. Il dit que la personne qui a été tuée, il se présentera auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal. Hein, il a dit que sa tête dans sa main, et il est en train de saigner. Alors maintenant, essayons d'analyser ça. Est-ce que vous montrez ce hadith à un médecin ou quelqu'un de rationnel qui quoi, il marche avec son tête de son main comme un ballon ou comme un affaire comme ça ou un noix de coco? Ce n'est pas possible. D'accord? Avec notre compréhension de dunya, on ne peut pas comprendre. C'est un hadith authentique, mais c'est un hadith intéressant pour qu'on comprenne bien quel est. À partir de quand on ne comprend plus, on ne peut plus analyser. On dit que la victime se présentera, si on lui a coupé la tête, il présentera avec sa tête coupée. Il a dit que le sang continue à couler de son corps. Déjà, le sang coule de son corps depuis combien de millions d'années, combien de milliards d'années. Tout ça, c'est incohérent. Alors que le sang coagule en quelques secondes, d'accord? Donc, on ne compare plus. Là, on parle de akhirat, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi. La terre même est changée. L'aspect, il n'y a rien de comparable avec ce dunya. Donc, en termes de bienfaits, rien de comparable. Mais en termes, malheureusement, également de châtiment, rien d'incomparable. La simple notion d'éternité est incompréhensible pour un habitant de ce monde. Quand on dit que le paradis ou l'enfer, c'est l'éternité. Essayez de comprendre l'éternité. Quoi, il finit plus, il n'a aucune limite. Ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais qui nous est décrit dans les hadiths, dans les ayats du Coran, qu'on comprenne bien quelle est la frontière qu'il y a entre notre monde à nous et l'au-delà. Et celui qui a iman, il croit à tout ce qu'Allah a révélé et tout ce que le prophète nous a dit. Ça c'est al-iman bil-ghaib alladhina yu'minuna بالغيب. طيب هذا. Donc l'annonce est faite. يا أيتها النفس المطمئنة. À cette âme apaisée. Pourquoi est-ce que cette âme est qualifiée d'apaisée? Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas dit يا أيتها النفس ارجعي? Parce que c'est un nafs, c'est un être humain, c'est un être vivant. والله يا أيها المؤمن. Les mufassirs disent que c'est un âme, cette personne, son âme est apaisée parce que par rapport au iman qui a toujours habité son cœur, le iman qui s'est développé, qui s'est intensifié dans son cœur, ce iman lui a donné des qualités telles que durant toute, c'est pas qu'il est apaisé quand il meurt, non, c'est durant toute sa vie de mu'min, cette âme était apaisée. Pourquoi? Il dit un hadith à l'appui. Lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام explique عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Le prophète dit عجيب, c'est étonnant la situation du mu'min. Celui qui a la foi de son cœur, sa situation est étonnante, c'est-à-dire incomparable avec n'importe quelle autre personne qui n'a pas la foi. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. S'il lui arrive un malheur, une calamité, et s'il fait preuve de patience, ben c'est un bien pour lui. وَإِنَ صَابَتْهُ سَرَّا شَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et si il lui arrive quelque chose de positif, Allah lui donne quelque chose, il remercie Allah, ben ça aussi c'est une récompense, c'est un ibadat. C'est-à-dire dans tous les cas de figure, le musulman est gagnant. Il vous arrive quelque chose de bien, de positif dans votre vie, vous remerciez Allah, alhamdulillah, vous êtes sur le droit chemin. الشُكْرُ عِنْدَ النِّعْمَةِ. Remerciez Allah lorsqu'on est dans le bienfait. Et si vous arrive un malheur, on se retourne vers Allah, et ça aussi c'est un ibadat. On fait preuve de patience, on se retourne vers Allah, ça aussi c'est un ibadat avec ce qu'il y a comme récompense par rapport aux épreuves. Également, il dit pourquoi c'est une âme apaisée. Il dit que c'est quelqu'un qui a à la fois le mu'min, à la fois, comme on disait tout à l'heure, sur le destin. Tout ce qui arrive, il ne suffit pas d'habiller lui. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas la foi, mais demain, comment je vais faire? Là, la crise, l'inflation, si l'entreprise ferme, si les prix augmentent, l'essence augmente, le gaz augmente, le loyer il augmente de 2% cette année, j'ai calculé le barème et tout, comment je vais m'en sortir? Allahu Akbar, il y a des gens qui sont tellement, se font tellement du souci pour leur risque. Qu'est-ce que je vais manger demain, et après demain, et dans 3 jours, et dans 4 jours? Je fais du souci pour moi, et je commence à me faire du souci pour mon enfant qui a 2 ans. Et la maîtresse a dit qu'il ne travaille pas bien, il ne connaît pas les coloriers et tout. Mais comment il sera si en maternelle il ne connaît pas colorier, ou si en maternelle il a mort son camarade? Ben, en grande section, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça commence à faire, en CP il sera déjà un truand, il faudra déjà mettre en prison, etc., etc. On se fait du souci pour les enfants, ils vont grandir, peut-être même pour les petits-enfants qu'on aura un jour, on se fait du souci. Quelqu'un qui n'a pas, ça c'est quelqu'un qui n'a aucune confiance. Pour lui l'avenir c'est comme si qu'il n'y a pas de destin. Rien n'est écrit, c'est moi qui construis. Alors si je n'ai pas mis les bonnes pieds aux bons endroits, si je n'ai pas bougé les pions comme il le faut, quel échiquier je vais voir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Mais moi j'imagine, Allah nous protège, supposer qu'on n'avait pas iman. Et que pour moi ma conception de la vie c'est que la vie se présente comme je l'ai préparée. Mais c'est terrible ça! Il ne dort plus le soir. Il ne dort plus le soir, mais je me fais du souci, ben, comment ce sera mon lundi, comment je prépare mon mardi, comment je prépare mon mercredi, qui me dit que jeudi je ne serai pas malade, je vais rater mon rendez-vous avec mon patron, qui me dit qu'arrivé le week-end, il ne va pas arriver un accident, si je sors et qu'une voiture, hein, il fait un accident avec moi à l'intersection, vous voyez pas, je pars en voiture, etc. Subhanallah, on va rentrer dans un engrenage, parce que je n'ai pas le iman sur le taqdir. Tandis que le musulman ne se casse pas la tête. Il prend ses précautions, bien sûr. Hein? Ça, c'est ihtiyat. On ne va pas parler de ça. Je prends les précautions, comme Sahaba, il avait laissé son chameau devant Masjid Fassam, il a dit que Aqil hatma tawakkal ala Allah. Attache ton chameau. Après, il dit tawakkal toi ala Allah. C'est pas cool, viens, écoute le taux, le 307cc, décapotable, la clé sur le compteur, bien fait namaz. Jamais. Et quelqu'un, il prend le taux, et ça va, peut-être moi-même, il vole le taux, et ça va. Alhamdulillah. N'importe qui va jouer le taux, il prend le taux, et ça va, d'accord? C'est-à-dire, je prends le minimum de précautions, mais je ne me prends pas la tête. C'est pas chaque rakat, mais est-ce que mon auto est encore là? Est-ce que quelqu'un n'a pas fini de crocher l'auto? Même je me suis garé de manière ajib, mais bon, Inch'Allah, il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on prend les précautions, et après, c'est dans les mains d'Allah. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que le kafir ne comprend pas, lui. Cette quiétude qui doit normalement habiter le cœur du musulman, le kafir, aussi riche soit-il, il peut être ministre, président, roi, je ne sais pas, marquis ou je ne sais quoi. Il ne comprend pas ni c'est quoi cette tranquillité du cœur. Parce que pour lui, l'avenir, c'est moi qui le construis. L'avenir de nos enfants. Construisons l'avenir de nos enfants. Bye, ou t'avenir, ou 5 minutes, ou 5 minutes, tu ne sais pas, tu as un arrêt cardiaque. Tu vas construire l'avenir de tes enfants. Ça, c'est l'âme du musulman. Pourquoi il est apaisé? Parce qu'il a, entre autres, qu'on vient de dire, il est toujours, il accepte tout ce qui vient de la part d'Allah, bon comme mauvais. Également, il a la foi sur le destin, sur tout ce qui arrive, il ne se casse pas la tête. Également, c'est quelqu'un qui, il suit, s'il suit vraiment le mu'min complet, il suit les conseils du prophète sallam, c'est quelqu'un dont le cœur ne sera jamais habité par la jalousie. Vous savez, la jalousie, là, ça peut vous pourrir à la vie. Vous pouvez avoir un logement, un F3, un F2, allez, un F2, vous avez une petite voiture, une 206, un petit travail, vous avez 1 300 € par mois, yani, machil hal, comme on dit, vous vivez, vous faites vos courses, votre paye, votre courant, votre facture téléphone, votre internet et tout, à la fin du mois, il reste 100 € et tout, mais vous mangez, vous vivez, vos enfants s'habillent, tout va bien. Il n'y a pas de problème, je vis correctement. Demain, j'ai un voisin qui s'installe en face, il apprend un F4, il a un gros loto, tous les ans, il voyage. Et je vois tous les jours, il rentre avec des courses, beaucoup de choses à manger, il reçoit des amis, etc., etc. Mais le gars, il dit, Bouga, il vit bien, Bouga, là, on l'est, hein. Il dit, je vivais bien, moi, jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas de problème. Le fait que je vois quelqu'un qui vit dans des bienfaits, il a plus que moi, la jalousie commence à brûler mon cœur. Même si avant, je n'avais pas... ma situation n'a pas changé. Je n'ai pas perdu mon boulot. Je n'ai pas été expulsé par mon propriétaire. Mais je commence à cultiver la jalousie. Ça me pourrit la vie. En plus de pourrir ma vie, la jalousie brûle les péchés comme le feu consomme le bois. Mais ça, c'est autre chose. Là, on parle de la quiétude, la tranquillité du cœur. Pourquoi est-ce que le mu'min, il ne ressentira jamais la jalousie? C'est simple. Le prophète a expliqué qu'un musulman doit toujours regarder celui qui est inférieur. Je suis dans F2, je boucle la fin du mois, il ne me reste plus rien, mais je mange et je n'ai pas de problème, j'ai une petite voiture, je veux bien. Regarde celui qui est dans un studio, qui doit prendre le bus, qui n'a pas de travail, ou celui qui est à la rue, etc., etc. Je regarde toujours ceux qui sont plus bas que moi. Ce qui fait que le mu'min dans son cœur, là, il est tranquille. Il est toujours tranquille. Avec la quiétude, la tranquillité qui descend en plus de ce qu'on a dit, hein, avec le dhikrullah, avec la lecture du Coran, avec la salat, etc., etc. C'est pour ça que cette âme, l'âme du musulman, a été qualifiée de nafsul mutma'inna. Par opposition au kafir. Le kafir, même s'il est riche, célèbre, reconnu, son âme n'est jamais tranquille. On ne va pas redire tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, lui, c'est exactement le contraire. Il peut avoir une jolie femme, tout ce qu'il faut, mais pour lui, ah, mon madame, il est comme ci, comme ça, il se sentira jamais heureux. Pourquoi un homme marié va faire l'adultère? Pourquoi il va faire le zina? C'est pas que le musulman, il ne voit pas une jolie femme, mais peut-être des belles femmes, il y en a partout. Mais le musulman, même s'il sait qu'il y a vu une femme qui est plus jolie que son épouse, mais il sait que ça, c'est qu'Allah m'a donné. Alhamdulillah, il remercie Al-Qana'a. Ce qu'Allah m'a... Ça veut dire que madame est vilain. Al-Qana'a, content ce qu'elle a donné. Non, ça veut dire que les bienfaits qu'Allah m'a donné, Alhamdulillah, je remercie Allah. Tandis que celui qui, il a une vie de couple, hein, mais il va chercher ailleurs. Il va dire non, ah, peut-être il y aura d'autres trucs à voir, peut-être ce sera mieux. Ou alors, même s'il a tout, il sera à la recherche d'autres sensations. Et il va commencer à consommer de la drogue. Essayer d'avoir d'autres plaisirs. Je parle pourquoi? Parce que dans sa vie de ce dunya, hein, même s'il a tout en apparence, il n'a pas la tranquillité du cœur. Vous pouvez vivre dans le luxe. Vous pouvez avoir les meilleurs mets, les meilleures nourritures, mais vous n'avez pas la tranquillité du cœur. Et vous allez chercher cette tranquillité partout. Regardez, et Mouana explique, hein, l'avantage c'est que c'est un tafsir très récent. La personne est décédée il y a 5 ou 6 ans. Il dit que regardez, de nos jours, les gens, ils vont... On va finir avec ça. Non, moi, c'est 30 minutes. On a 29 minutes, Inch'Allah. Il dit, de nos jours, dans différents pays, il y a des centres, il y a des trucs de spa, il y a des trucs de... Il y a un nom en chinois, là, je ne retiens jamais. Wan Shipata ou Shi, je ne sais pas quoi ça. Je ne sais pas quoi, des trucs de pour être zen, hein, la manière de décorer, pour que tout... Hein, feng Shui, hein, Pata ou Shi, Feng Shui. T'as ce genre de choses, je veux dire wanton, ça se mange, hein. Vous connaissez que manger. T'as on va essayer de trouver le plaisir dans différentes choses, hein, dans la décoration, ou alors dans telle chose, dans telle activité, à travers des massages, à travers, hein, peut-être, hein, il y a des gens qui ont des problèmes, ils disent, j'ai des problèmes, casse pas la tête, achetez un jacuzzi. Je dis, quel rapport? Je dis, non, acheter un jacuzzi, ou avoir le soir en toute case, ou assis d'autre baignoire, mettre le jacuzzi, ah, il m'a sous dos, déjà, ou avoir comment on sera heureux. Je ne sais pas moi, est-ce que ça règle des problèmes? Elle dit, on va essayer de trouver 1000 solutions pour apporter le bonheur de notre vie. Hein? Mais, quels que soient les moyens qu'on va essayer de trouver, ça ne comblera jamais le vide laissé par l'absence de iman. Et ça, ce sont là des exemples qu'on a déjà cités 1001 fois, on le répétera 1002 fois. Regardez, si on regarde un des plus grands footballeurs du monde, on ne dira pas son nom, cet Argentin, hein, qui était considéré, on l'appelait le dieu du football, Allah Musta'an. Allez, on l'appelle comme ça, riche comme pas deux, célèbre comme pas deux, d'accord? Il ne peut pas marcher dans la ville, on va sauter sur lui, les femmes vont l'embrasser, on va demander autographe et tout, il y a un degré de célébrité, de richesse exceptionnel. C'est des gars qui touchent 1 million d'euros par semaine, ce que vous ne toucherez jamais en une vie, lui le touche en une semaine, d'accord? Mais pourquoi il se met à consommer de la drogue? C'est quoi le problème? Il a tout. Même le ministre de son pays, le président de son pays, de l'Argentine, n'avait pas un salaire comme ce monsieur-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de toucher à la drogue et autre chose? Il y a un vide dans le cœur. Quand il n'y a pas la foi, vous recherchez quelque chose qui est absent. Tandis que, Moana l'explique, il dit qu'il dit une parole magnifique, « لو يعلم الملوك وأبناؤ الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بسيوف » Il a dit, si les rois et les fils de rois savaient la tranquillité, le bonheur qu'il y a dans nos cœurs, ils nous fouetteraient pour essayer de l'avoir. C'est-à-dire les rois, ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont tout, s'ils savaient qu'est-ce que nous avons comme bonheur de notre cœur par la présence du iman, ils feraient tout pour essayer d'avoir la même chose. Bon, on va conclure, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Et juste une petite anecdote. Hein, il y avait un des grands ulama de l'histoire de l'islam, ça s'appelait Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme beaucoup de ulama, hein, il a été emprisonné. Il avait été emprisonné. Et lorsque les gardiens ils le mettent en prison, hein, Ibn Taymiyyah avait dit cette parole. Il avait lu ce verset. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. C'est un verset en rapport avec le delà, mais il a adapté avec la situation qu'il vit. Il veut dire quoi, brièvement? Il dit que voilà, mes gardiens, ils me mettent en prison. C'est-à-dire qu'en apparence, on me met en prison, hein, je dois vivre un cauchemar. L'intérieur, ça a l'air d'être un cauchemar, mais d'un regard extérieur, ça a l'air d'être un supplice. Mais moi, intérieurement, je le vis comme une bénédiction. Il dit parce que je suis peut-être dans une prison, dans une cellule, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas liberté, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, mais ce qu'il y a dans mon cœur, c'est un paradis. C'est-à-dire par le iman, la foi, la science, le ilm, la confiance en Allah, la relation de mon cœur avec Allah, fait que j'ai un état général. Ça me donne un état d'apaisement qui est tel que même si moi je suis en prison, je suis un homme heureux. Même si je n'ai rien, j'ai les mains vides, les poches vides, je suis heureux par rapport à ma relation avec Allah, par rapport à la quiétude, la sakina, la tranquillité qu'Allah fait descendre dans mon cœur par le iman qui s'y trouve. Donc on n'a pas pu compléter le Walfaj. La prochaine fois, on expliquera Radiyatan Mardiya, Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. On finira, Inch'Allah, Tafsir Walfaj, et on commencera le surat suivant. Qu'Allah tawfiq de comprendre. Donc c'est quelques paroles, de faire un mal, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et donc, alhamdoulilah, il y a 2 semaines, on avait expliqué le YADJ, hein, qui s'est déroulé à Saint-Pierre, qui a rassemblé entre 500 et 600 jeunes, alhamdoulilah. Ça s'est passé dans une ambiance exceptionnelle, on avait un invité de marque, Cheikh Hassan, qui a fait des discours vraiment d'un niveau, parmi les discours francophones, un niveau que je pense qu'à La Réunion n'a jamais été atteint, en termes de discours francophones, d'accord? Et là, alhamdoulilah, ce dimanche 15 novembre, le Centre islamique organise également le EDJ pour les filles. C'est la première fois qu'on va le faire. Ça durera sur une demi-journée. Quand c'est avec des filles, on ne peut pas faire 2 ou 3 jours, dormir, c'est trop compliqué. Donc, il y a 250 filles de La Réunion qui ont été sélectionnées donc, par le professeur de chaque quartier. Et donc, ils se rendront dans une colonie de vacances d'un centre là, ce dimanche-là, le matin jusqu'à l'après-midi. Et là, alhamdoulilah, pour cette manifestation également, nous avons eu l'honneur de recevoir une personne, ce sera une femme qui va faire des interventions, qui va faire donc les programmes, les bayans. C'est une femme qui est musulmane, bien sûr, qui est sociologue et qui a écrit beaucoup de livres. Elle est spécialiste surtout dans les relations de couple. Elle est diplômée d'État dans ce domaine-là. En plus, avec le bagage de connaissances religieuses qu'elle a, Alhamdoulilah, il a écrit pas mal de livres qui se vendent beaucoup en France, qui en a à Réunion également, sur les conditions du bonheur de le couple. Et donc, elle animera la conférence de ce dimanche pour nos sœurs, hein, de le matin. Et puis, l'après-midi, il y aura des activités sportives qui permettront à ces différentes personnes de se connaître un peu plus, de renforcer un peu plus de mohabbat. Donc, alhamdoulilah, ça c'est un grand bienfait de la part d'Allah. Il y a des avancées pour ces générations que peut-être nous, avant, on n'a pas connues. Alhamdoulilah, les ulamas, les mashayikh se mobilisent pour cette jeunesse et nous demandons à Allah Azza wa Jal de mettre la sincérité dans tous ses projets et qu'Allah Ta'ala il fasse que l'objectif soit atteint. Allah, il met la foi dans le cœur de nos jeunes, il ravifie cette foi et que nos jeunes, hein, une fois pour tous, soient fiers d'être musulmans et qu'ils soient motivés pour développer le iman de leur cœur. Ce iman atteint le maximum, le paroxysme qu'ils peuvent eux aussi un jour transmettre à leurs enfants. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum Allah.